Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse au chapitre 42. On va lire tout le chapitre. Genèse 42, versets 1 à 38. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, fils de Joseph, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'était lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger parmi eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Il leur dit, « Vous êtes des espions. » Et c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Non, tes serviteurs sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays des Canaans. » Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Mais voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est avec vous, est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et emmenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, ne commettez point un crime envers cet enfant? Mais vous ne m'avez point écouté, et voici, son sang est redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remît l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit. Et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? » Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme, qui est le seigneur du pays, nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune aujourd'hui est avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je serai si vous êtes sincère. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus. Siméon n'est plus. Et vous me prendriez Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te le ramène pas, Benjamin. Remets-le-moi entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Alors, tout simplement, le message aujourd'hui, je l'ai appelé « La providence de Dieu est révélatrice ». La providence de Dieu, on l'a un peu mentionné au cours des leçons précédentes. La providence de Dieu, c'est simplement les circonstances. Les circonstances que Dieu envoie dans la vie ici de Jacob et dans la vie de Joseph et dans la vie de sa famille. Et c'est aussi nos circonstances à nous. La providence, autrement dit, Dieu se sert de la providence, des circonstances qu'il permet qu'il arrive dans nos vies pour nous éduquer, pour nous transformer, pour nous montrer nos péchés, pour nous corriger et pour plein d'autres choses encore. C'est toujours fait avec une très, très grande intelligence et avec une très, très grande sagesse. Et on le voit dans ce livre-là d'une façon particulière. Alors, pour ça, j'appelle ça la providence de Dieu est révélatrice. On va voir qu'elle est révélatrice de plusieurs choses. Alors, l'histoire de Joseph, moi, c'est une des histoires que je trouve les plus fascinantes des Écritures. Parce que ça parle d'un sujet que j'aime énormément, et c'est celui de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il est le roi, et c'est lui qui décide de toutes nos circonstances, peu importe que nous les considérions comme joyeuses ou que nous les considérions comme malheureuses, comme des épreuves. Oh, excusez-moi. Ça fait partie des... Excusez-moi, j'ai un problème d'oreille. Pour ceux qui sont... La misère. Bon, OK. Elle est fascinante à plusieurs égards. Justement, ça parle de la souveraineté de Dieu qui, moi, je trouve que si on lit un chapitre comme le 42 et qu'on ne voit pas comment Dieu travaille dans la vie des siens, il travaille dans la vie de Jacob, il travaille dans la vie de Joseph, il travaille dans la vie des 10 frères, et il travaille même dans la vie de Benjamin. Dans tout ça, il y a plein de choses que Dieu va nous montrer. Alors, c'est fascinant à plusieurs égards. Elle va illustrer cette leçon-là, 42, la manière dont Dieu travaille pour réaliser ses promesses, à la fois pour son peuple et à la fois pour les individus qui composent son peuple. Alors, aujourd'hui, on pourrait dire comment Dieu travaille pour son Église, dans son ensemble, et comment Dieu travaille pour chacun des membres qui composent toutes les églises locales du monde. C'est exactement ça. Alors, une des promesses, parce qu'on peut lire ce chapitre-là, et si on ne se souvient pas de qu'est-ce que Dieu a dit dans les chapitres précédents, on se trouve à manquer le bateau un petit peu, parce que ça se trouve à être un accomplissement, une réalisation de ce que Dieu a promis un petit peu dans le passé. Comme par exemple, si vous vous souvenez, dans Genèse 3,15, qu'est-ce que Dieu avait promis? Il avait promis l'envoi d'un Messie pour corriger la chute d'Adam dans le péché et Ève dans le péché. Alors, il avait promis cela. Et là, on est rendu à un chapitre où ça raconte un petit peu l'histoire de Jacob et l'histoire du peuple et l'histoire de Joseph. Et on est porté à ne pas faire le lien avec ça. Et quand on fait ça, on fait une erreur parce que vous allez voir, on va vous le démontrer. Alors, Dieu fait des promesses à son peuple et on sait que les promesses de Dieu sont absolument sûres quant à leur accomplissement. Genèse 3:15, ça fait longtemps qu'on a vu ça. Là. Et là, on est à Genèse 42. Mais le Seigneur est encore en train de réaliser, pas pleinement, mais de faire avancer l'envoi du Messie qu'il avait promis. Parce que comment, on peut se demander comment, ben, pour la simple et bonne raison que le peuple d'Israël est en train de crever de faim en Canaan à cause de l'immense famine qu'il y avait là et qui va durer 7 ans. Il serait mort. Alors Dieu est en train de montrer que la promesse qu'il a fait d'envoyer le Messie peut s'accomplir malgré l'obstacle du 7 ans. Alors, on sait que les promesses de Dieu sont toujours accomplies, mais des fois, ils prennent du temps. Comme là, nous autres, on a lu dans les Écritures que le Seigneur va revenir. Des fois, on est porté à penser, mais ça prend du temps, comment ça qu'il revienne? Mais le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, les promesses de Dieu, ils s'actualisent, c'est-à-dire ils se réalisent souvent sur une très longue période de temps. Dans Genèse 3:15, là, ça a pris plus que des centaines d'années là, avant que Jésus vienne, le Messie promis. Ça a pris des milliers d'années. Alors, c'est là qu'on voit que Dieu accomplit ses promesses, mais à sa manière et en son temps, et après avoir fait vivre des choses à son peuple, comme il le veut. Alors, il y avait une autre promesse que le Seigneur avait faite à une autre personne aussi, qui était Abraham, dans Genèse 15, les versets 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham, dans le temps, il n'avait pas encore changé son nom, il s'appelait encore Abraham, comme vous vous souvenez. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. » Ça, c'est bien avant là, de Jacob. Là, t'étais Abraham, après ça, il y a eu Isaac. Là, on est rendu à Jacob, et il est en train de commencer à réaliser une promesse qui est faite à Abraham, qu'un jour, le peuple d'Israël va sortir de Canaan, et il va s'en aller pendant 400 ans à être exploité par les Égyptiens. On oublie ça, hein? C'est vrai qu'on oublie. On oublie que Dieu a fait une promesse messianique qui est en train de l'accomplir un petit peu graduellement. Et la même chose pour l'envoi du peuple d'Israël en Égypte. Voyez-vous comment ça se fait? Il va le faire graduellement. Il va faire sortir les fils en premier. Ensuite, il va ramener le père. Et là, ils vont s'installer dans le pays de Gozan. Puis là, la promesse que Dieu a faite, qui vont être là pendant 400 ans, elle va s'accomplir. Et on oublie de voir ces choses-là. Et si on lit 42, on oublie ces deux choses-là, on oublie quelque chose d'important. Alors, le plan de Dieu comprend des promesses qui concernent aussi les croyants comme individus. Donc, Israël comme nation. Aujourd'hui, c'est l'Église comme dans son ensemble. Mais les églises sont composées d'individus. Il nous a fait des promesses aussi à nous comme individus. Alors, examinons comment le Seigneur agit dans ce passage-là pour l'accomplissement de toutes ces promesses-là et de ces prophéties. La première, moi, je compare ça un petit peu à Genèse 42, c'est comme un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, quand il fait jouer son orchestre, c'est lui qui commande quel musicien va jouer, et il va jouer quelle sorte de notes, ça va être des notes joyeuses, ça va être des notes... Et c'est lui qui commande le grand morceau, qui commande qu'est-ce qui va se réaliser. Alors le Seigneur, il agit exactement comme cela pour son peuple, et il agit comme ça dans nos propres vies aussi. C'est lui qui est le maître, qui commande qu'est-ce qui va se passer dans nos vies. Et c'est toujours pour notre plus grand bien, puis c'est toujours rempli de sagesse. Alors, nos circonstances providentielles, c'est très important de réaliser qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Les choses qui nous arrivent dans nos vies de tous les jours, c'est pas le hasard. C'est Dieu qui les commande personnellement. Ça, on est tellement porté à oublier ça, c'est qu'on passe notre temps à critiquer, à chialer. J'ai-tu besoin d'être ça, moi? J'avais-tu besoin d'être ça, moi, là? Ben oui, c'est ça que tu avais besoin. Si c'est ça qui t'a envoyé, c'est parce que c'est ça que tu as besoin. Alors, dans le Genèse 42, les cinq premiers versets, c'est vraiment que Dieu est en train de montrer à Jacob que les circonstances qu'il lui envoie ont pour but qu'il aille chercher du blé ou qu'il n'avait. Il avait entendu parler qu'il n'avait du blé en Égypte. Il regarde ses fils. Que si vous avez, vous regardez les uns les autres. On aurait dit que ses fils étaient comme figés, ça n'avait plus trop quoi faire. Le père est obligé d'intervenir, il dit, gars, il y a du blé en Égypte, réveillez-vous, allez en chercher. Il dit, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Et il dit, j'ai appris qu'il y a du blé à vendre en Égypte, descendez-y, achetez-y du blé afin que nous vivions et que nous ne mourions point. Intéressant de voir que les 10 personnes que Dieu permet qui aillent en Égypte, c'est les 10 frères qui ont vendu Joseph comme esclave. Il y en a un qui n'a pas été. Puis Dieu permet que lui, il n'y aille pas tout de suite. Et c'est Benjamin. C'est très intéressant que le Seigneur dirige tout cela. Mais ça dit dans le verset 4, Jacob n'envoya point Benjamin, frère de Joseph, avec ses frères, car il dit, prenons garde qu'il ne lui arrive malheur. C'est comme si, des fois je me demande, des fois je lis ça, puis vu que ce n'est pas marqué dans le texte, on ne peut pas trop déduire des choses. On se demande tout le temps, quand l'affaire de Joseph est arrivée, vu que le père y connaissait bien ses fils, ça se pourrait-tu qu'il les ait soupçonnés? Moi, je pense que oui. Il les a probablement soupçonnés. Et là, il est en train de dire, « Vous en avez pris un. » Puis, il ne faut pas oublier que c'était les deux fils de sa femme préférée. Alors, s'il en a perdu un, il se disait moi-même, je ne ferai pas exprès pour envoyer le deuxième, il peut aussi bien y arriver de quoi encore. C'est comme on dirait que c'est comme si le père n'était pas trop sûr de ses gars. Lui, je ne l'envoie pas parce que de peur qu'il ne lui arrive un malheur. Et là, les 10 fils sont descendus. Alors, la famine était très grande. La preuve que Dieu est en train de réaliser la question de l'envoi du Messie, pas immédiatement, mais une étape. Parce qu'il y a plein d'étapes là, avant que Jésus vienne, là, à partir de la promesse de Genèse 3.15, aller jusqu'à ce que Jésus vienne dans Matthieu. Là. Ça dépassait les choses. Là. Dieu a travaillé dans son peuple et dans les individus aussi qui composent son peuple. Alors, on relit Genèse 3, 14 et 15. Alors, l'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. » Alors, c'est vraiment c'est la promesse de l'envoi du Messie futur pour régler le problème énorme qu'il venait de créer. Alors, le Seigneur a agencé les circonstances de la vie de Jacob et aussi de celle de son fils Joseph. Parce que si la famine était prévue, Dieu avait permis que le péché des 10 frères puisse servir à la solution. Mais c'est de retenir que le principe s'applique aussi dans nos vies. Le Seigneur, des fois, nous envoie des affaires qui font bobo. Ça fait mal. Puis, des fois, c'est nécessaire. Puis, c'est juste après coup, des fois, plusieurs années après, qu'on se rende compte de la sagesse de Dieu. C'est pour ça que les Écritures nous disent « Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ». On ne devrait jamais chialer. Alors, vous remarquez ça, comment on est broyard, comment on est chialé. Je m'inclus, là. Je ne vous dis pas ça, c'est vous autres. Moi, je ne suis pas pareil. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis broyard et je suis chialé comme tous les pécheurs. Mais les Écritures sont là pour nous éclairer et pour nous rappeler que toutes les circonstances que Dieu nous envoie sont pour notre propre bien et ont pour but de nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ, sont remplies d'intelligence et sont remplies de sagesse. Si on comprendrait vraiment cela, pensez-vous qu'on chiolerait dans la vie? On chiolerait jamais, parce que ça nous reviendrait à l'esprit. OK, c'est douloureux, ça fait mal, mais le Seigneur se sert de ça pour m'enseigner quelque chose. Et c'est pour me faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Ça veut dire que ça m'en prend beaucoup de douleur pour corriger tellement de choses. Il y a tellement de choses à corriger dans nos vies que ça va prendre du temps avant que je sois rendu à la fin. Et il y a une autre leçon que le texte nous apprend. C'est que le Seigneur n'exempte pas ses enfants des épreuves. Vous voyez la famille, là, Jacob, les 10 frères, ils souffrent. Et le Seigneur, il permet ça. Mais il fait la même chose pour nous. Et il nous voit des choses qu'on vit, qu'on trouve difficiles, et qui nous font souffrir, et qui souvent nous font même pleurer. Mais pourtant, Dieu considère que ces choses-là sont nécessaires dans vos vies. La deuxième chose, c'est vraiment la promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'on a lu tantôt. Dieu a dit à Abraham, ta descendance, donc le peuple qui va sortir de toi, éventuellement, vous allez aller dans un pays et vous allez être exploité pendant 400 ans. Pourquoi? Parce que Dieu considérait que le peuple d'Israël, même s'il venait d'être racheté, il avait besoin d'apprendre des choses. Et il les envoie pendant 400 ans. Et ça va prendre 400 ans avec le Seigneur envoie Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Mais c'était dans leur destin d'aller là parce que Dieu avait promis à Abraham que ça arriverait. Toutes les promesses de Dieu arrivent. Alors le plan de Dieu, ça comprenait l'envoi de son peuple en Égypte pour des fins pédagogiques. Pédagogique, ça veut dire des fins d'enseignement. Et le Seigneur, nous autres, l'Égypte, c'est le monde. Hein? C'est comme l'équivalent de l'Égypte pour l'époque, puis avec nous autres aujourd'hui, c'est le monde. Dieu permet des choses qui se passent dans le monde pour notre pédagogie, pour notre instruction. On a plein de choses à apprendre. Alors, autre chose, c'est que le Seigneur permet que dans nos vies, il y a un savant mélange des douleurs qui nous arrivent dans nos vies à cause du péché. Et un mélange aussi de la foi en Dieu. On le voit dans le texte, dans le verset 4. Mais Jacob n'envoya point Benjamin, frère de Joseph, avec ses frères, car il dit, prenons garde qu'il ne lui arrive malheur. Voyez-vous, juste l'histoire d'envoyer chercher du blé. Il voyait encore le potentiel de péché qu'il pouvait avoir là-dedans et le risque de perdre un deuxième enfant. Parce que lui, dans sa tête à lui, c'était réglé, son fils Joseph, il était mort. On sait qu'il avait tort, mais lui, il pensait qu'il était mort. Alors, Jacob n'arrive pas à oublier la perte de Joseph qu'il croit. C'est intéressant de voir la providence de Dieu dans le sens que il est mort, c'est-à-dire les fils ont voulu faire croire au père qu'il était mort, et le père, il a pris ça tellement dur, et ça l'a duré tellement longtemps, mais pourquoi vous croyez que le Seigneur a permis que ça dure tellement longtemps dans la vie de Jacob? C'est pour que les fils le voient, la douleur qu'ils ont. Il faut qu'ils voient. Et lui, ça faisait des années et des années, il n'était pas encore remis de ça. Et ses fils qui vivent avec, ils voient bien, dans le fond, c'est comme s'il aurait dit, « Ouais, le père, ça remettra jamais. » Et c'était bon pour eux autres parce que ça leur remettait à la conscience la gravité du péché qu'ils avaient fait. Et c'est intéressant de voir que, quand même, la solution de sortir du marasme, de la famine, c'était quand même d'avoir la foi en Dieu, d'aller chercher du blé. Ils écoutent leur père, au moins ils sont obéissants. Et les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient, car la famine était grande au pays de Canaan. Alors, si on prend toute la deuxième partie, qui est à partir du verset 6, aller jusqu'au verset 26, on voit que Dieu veut faire quelque chose avec les 10 frères. Ils ont quelque chose à apprendre, ces enfants-là. Et Dieu va se servir des événements qui vont se passer là pour les 10 frères. Moi, j'ai noté au moins 4 choses que le Seigneur veut leur montrer dans ce passage-là. Versets 6 à 14, on ne lira pas tout le passage, mais dans le fond, qu'est-ce que Dieu veut montrer aux 10 frères? Est-ce que ces 10 frères-là ont agi par orgueil en disant à Joseph, dans le verset 37, quand Joseph a dû raconter les rêves, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, alors ses frères lui dirent, « Règnerais-tu sur nous? Ou nous gouvernerais-tu? » Et ils le haïrent encore plus pour ses rêves et pour ses paroles. Et dans le verset 19 du même chapitre 37, « Et ils se dirent l'un à l'autre, « Voici ce songeur qui vient. Maintenant donc, venez, tuons-le et le jetons dans quelque fosse. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. » T'as-tu de l'orgueil, ça? Il savait que les rêves... Joseph avait dit que ses rêves venaient de Dieu. Puis là, ils ont dit... On va le capoter, le jeune. On va le tenir dans on va le voir si ses rêves vont arriver. C'est comme une façon de t'élever orgueilleusement et de penser que tu es capable que ce que Dieu avait promis ne se réalisera pas. Et il avait besoin de se le faire rappeler que c'est Dieu qui le maître. Et autre chose, à partir du verset 15 au verset 20, Juste avant de passer dans la deuxième chose que Dieu veut leur montrer, c'est de se souvenir que Dieu se sert de ce qu'on appelle le principe de la rétribution. Autrement dit, dans les Écritures, Dieu nous montre à maintes et maintes reprises que si on est orgueilleux, Dieu va nous humilier. Autrement dit, la rétribution, c'est qu'il se sert du péché qui te domine pour te donner une expérience qui va t'apprendre que tu es orgueilleux? Tu penses que tu vas empêcher telle affaire, de réaliser? On va le voir. Il t'humilie. Alors, c'est ça le principe de la rétribution. La deuxième chose, qu'il veut leur montrer la dureté de leur cœur et le mensonge. Et Joseph veut mettre à l'esprit de ses frères quelles ont été les conséquences de leur péché. Joseph a connu la prison à cause d'eux. Si on fait le lien, là, eux, ils lui ont fait connaître la prison. Et lui, il va leur faire connaître la prison. Parce que ça dit dans le texte qu'il les a envoyés en prison 3 jours. Ça a dû être 3 jours que ça a dû mijoter un petit peu dans le petit coco. Parce que là, pourquoi Dieu les envoie ici? Parce qu'ils ont, peut-être fait un lien. Il leur suggère aussi une autre idée, que ça avait sûrement pour effet de venir réveiller leur conscience. Quand il leur dit à ses frères, et eux, ils ne savent pas que c'est Joseph, là. Ils pensent que c'est le premier, ministre d'Égypte. Lui, il leur dit à eux, ils devaient trouver ça curieux, qu'ils disent à ces gens-là, « Je crains Dieu ». Imaginez-vous, eux, c'était des gens qui étaient du peuple de Dieu, qui étaient supposés d'être des gens qui craignaient Dieu. Et là, ils voient supposément le premier d'Égypte qui leur rappelle à eux, « Je crains Dieu ». Alors, Dieu est en train de les rappeler par la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait connaître à Joseph. Dieu est en train de leur rappeler aussi que lui, il craint Dieu. Alors, Dieu est en train de préparer l'esprit de ces 10 frères-là pour que ils comprennent la gravité de leur péché, que ça les conscientise de ce qu'ils ont fait. Et la preuve que ça va marcher, c'est que dans le verset 21-24, à partir du moment qu'ils se sont fait rappeler ces choses, et ils se disaient l'un à l'autre, « Vraiment, nous sommes coupables. » Voyez-vous, Dieu prépare l'esprit, et là, ils se rendent compte, ce qui nous arrive, qu'on se fait mettre en prison, nous sommes coupables. Et là, ils font un lien avec le péché qu'ils ont fait. Et c'est ça le but que Dieu veut qu'ils voient le lien. Car nous avons vu l'angoisse de son âme. Il parlait de Joseph. Devant Joseph, Joseph comprenait leur langage, mais eux, à cause que Joseph se servait de l'interprète, ils croyaient qu'ils ne comprenaient rien ce qu'ils disaient. Et ils racontent ça. Il dit, nous avons vu l'angoisse. Mais imaginez-vous, vous êtes dans la peau de Joseph, puis ils sont en train de parler de Joseph, puis on l'a vu comment il broyait quand on l'a mis dans la faute. On l'a vu, puis on a été sans cœur, la dureté de notre cœur, il est en train de leur rappeler ça. l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. Voilà pourquoi cette angoisse nous est arrivée. Ils font un lien de cause à effet. Et ça, c'est Dieu qui permet ça, que Joseph est capable de les amener à la compréhension de leur péché. Et Ruben, le plus vieux, on se souvient que c'était Ruben qui avait voulu essayer d'empêcher le meurtre. Et Ruben leur répondit en disant, « Ne vous disais-je pas bien, ne commettez point ce péché contre cet enfant, mais vous n'écoutâtes point, et voici que son sang nous est redemandé. » Ils font le lien que le trouble qui leur arrive vient du fait qu'ils ont fait un péché dans le passé. Et après ça, il dit, « Or, ils ne savaient pas que Joseph comprenait parce qu'il leur parlait par le moyen d'un interprète. » Et il se détourna d'eux pour pleurer. Imaginez-vous, vous voyez vos 10 frères devant vous. Vous les entendez parler. Puis là, ils disent, on l'a entendu quand il était tout en détresse, puis on ne l'a pas écouté. Puis je vous l'avais dit de ne pas le tuer cet enfant-là, puis vous l'avez tué pareil. Là, Joseph, il a dû venir, les émotions ont monté, au point qu'il n'est pas capable de s'obtenir, il est allé pleurer. Il pleurait de se souvenir de toutes ces affaires-là. Or, il se détourna d'eux pour pleurer. Puis, il retourna vers eux, il leur parla, et prit entre eux Siméon, et le fit lier devant leurs yeux. C'est intéressant, la question du pouvoir. Tu es en pleine possession de tous les pouvoirs que tu aurais eu pour écraser ces pécheurs-là. C'est fait. Et tu le fais pas. Ça prend une maîtrise de soi pas ordinaire. Dieu avait préparé Joseph. Il était capable d'affronter ses frères, de faire en sorte de vouloir les corriger, de vouloir leur faire prendre conscience de la gravité de leur péché, mais il n'utilise pas le pouvoir qui était... Il aurait pu dire, là, « Ah! Lave-la, mon temps de vengeance. C'est moi le boss, c'est. Puis je peux non seulement vous faire passer le reste de vos jours en prison, mais si je voudrais, je vous ferais zigouiller. » On voit la progression d'une âme sauvée, la progression d'une âme dans laquelle Dieu a fait un travail de miséricorde et qui est capable de se contrôler. On serait-tu capable, nous autres, s'il y aurait de nos frères qui nous auraient fait ça, de faire jeter puis de faire vendre comme esclaves? On serait-tu capable de pardonner à ce point-là? C'est là qu'on voit que Dieu a fait un grand travail dans le cœur de ça. C'est intéressant aussi, parce qu'on ne se pose pas souvent la question. On va lire le passage, on va lire que Joseph a fait lier Siméon devant eux, mais on ne se pose pas la question, pourquoi Siméon? Pourquoi pas un autre des 10 frères? C'est intéressant de se poser des questions, parce que les questions révèlent les choses. Alors, les frères de Joseph semblent s'accommoder relativement aisément de la gravité énorme de leur péché. Ça fait des années que ça s'est passé. On dirait que, tu finis par t'habituer à l'idée. Mais le Seigneur veut venir réveiller leur conscience endormie et endurcie. Dieu veut ramener douloureusement à leur mémoire leur surdité volontaire à la détresse de Joseph lorsqu'ils l'ont vendu, leur résistance à l'avertissement, un péché pour lequel quelqu'un nous a avertis. Ça rend le péché plus grave. Parce que quand quelqu'un vient t'avertir pour tel péché, fais attention, tu ne devrais pas faire ça, telle affaire. Puis tu le fais pareil. Ça aggrave ton péché. Troisième chose, la douleur et l'amertume de Joseph. On a beaucoup de difficultés à comprendre ça. Parce que si dans notre famille, on aurait eu, disons, une grosse famille comme ça, 10-12 enfants, puis qu'il y en aurait 10 de vos frères qui vous auraient fait enfermer dans une citerne, qui vous auraient quasiment mis tout nu. Après ça, qui vous envoie en Égypte vendu comme un esclave. Il a fait de la prison à cause de ça. C'est pas croyable toutes les conséquences que les gestes qu'ils ont faits, la douleur que ça a créé, l'amertume. Mais c'est ça qui est beau dans le passage, c'est que Dieu permet qu'on est capable avec... en gardant le contact avec Dieu durant tout ce temps-là, de ne pas exercer la puissance que Dieu nous a confiée. Il y a des choses extraordinaires dans ce passage-là. Et aussi, le fait qu'ils l'ont lié comme un criminel et vendu comme un esclave. Et ici, plusieurs commentateurs croient que Siméon a été choisi parce qu'il était d'un naturel violent. Ça aussi, on l'oublie. Parce que c'était dans des passages précédents, dans Genèse 34. Verset 25, on se souvient de Dina, qu'est-ce qui est arrivé. Bien, sûrement que Siméon, si vous vous souvenez, des bénédictions que Dieu a fait à ses 12 enfants avant de partir dans Genèse 49. On va les lire, vous allez voir que c'est sévère, qu'est-ce que leur père pensait de leur violence. Genèse 34, 25, « Et il arriva au troisième jour lorsqu'ils étaient souffrants. » Alors, on sait, l'entente, c'était qu'ils se faisaient circoncire, puis qu'ils étaient devenus deux peuples qui étaient pour travailler ensemble. « Que deux des fils de Jacob, et là, il nomme les noms, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, se jetèrent sur la ville en sécurité, et tuèrent tous les morts. » Alors, Siméon, c'était un violent. Et Genèse 49, quand à la fin de la vie de Jacob, Jacob vient pour bénir ses enfants, voici quel est le jugement qu'il porte et la prophétie qu'il fait sur eux. Genèse 49, 5 à 7, et ici c'est Jacob qui parle, et il parle prophétiquement. Il dit, « Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. » Que mon âme n'entre point dans leur conseil, que ma gloire ne se joigne point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Et regardez bien le dernier verset, là, le verset 7. Là. C'est fort un père qui dit ça à ses fils. Maudite soit leur colère, car elle fut violente. Jacob n'approuve pas et est en train de dire que ça va vous suivre le restant de vos jours. Hein, pour dire le péché, ça dure longtemps. Et leur fureur, car elle fut cruelle, je les diviserai en Jacob et je les disperserai en Israël. Et le Seigneur, dans le verset 25, aussi le verset 26, nous montre que malgré leur méchanceté, malgré le fait que Joseph fasse remonter à leur mémoire la gravité du péché qu'ils ont fait en vendant leur frère, il leur accorde qu'il n'y en a rien qu'un qui reste en prison. Les neuf autres, il leur donne du blé tant que t'en veux. Et non seulement il leur donne du blé, mais il leur joue un petit tour. Et le petit tour, il y avait une raison pour laquelle il a joué ce petit tour-là. Il les a remis l'argent dans leur... Mais là, quand ils ont ouvert le sac, imaginez, t'as payé, là, t'as fait affaire avec l'homme le plus puissant du monde, puis là, tu t'es dit, hein? C'est ça, je les ai payés, comment ça se fait? Et là, les questionnements, tout ça est permis par Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive? Et Joseph commanda qu'on remplit leur sac de froment et qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour le chemin, ce qui fut fait, puis ils chargèrent leur blé sur leurs âmes et s'en allèrent. Très intéressant de voir la miséricorde de Dieu. Dieu est en train de te conscientiser à ton péché. Pensez-vous que Dieu fait la même chose encore avec nous aujourd'hui? Ben oui. Dieu nous conscientise à nos péchés, mais à cause du fait qu'on est en Jésus-Christ, il nous accorde de la miséricorde. Il leur donne du blé, puis il leur redonne leur argent en plus. Très intéressant, dans le Job, chapitre 5, versets 17 et 18, un verset qui nous dit quelque chose qu'on a besoin de méditer et de se souvenir. « Voici heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise donc pas la correction du Tout-Puissant, car c'est lui il fait la plaie et la bande, il blesse et ses mains guérissent. » Intéressant, hein? C'est Dieu qui blesse, c'est Dieu qui guérit. Mais la blessure n'est pas envoyée parce qu'il aime ça de blesser, puis il aime ça de voir souffrir. La blessure est envoyée pour que tu apprennes quelque chose à partir de l'épreuve que Dieu te fait vivre. Alors Dieu est miséricordieux parce qu'il permet qu'il n'y a un qu'un qui reste en prison. Les neuf autres s'en retournent avec plein de blé. En plus, ils ont une petite surprise qui vont leur causer que ça va revenir dans leur esprit. Ils vont encore continuer à se questionner. qu'est-ce qui nous arrive? Et le but ultime de Dieu, c'est de te faire comprendre que tu es un pécheur, parce que d'être préparé à la rencontre où Joseph va se déclarer. Je suis votre frère Joseph. Et imaginez-vous comment ils doivent filer dans leur peau de voir qu'il est rendu l'homme le plus payé. La preuve, ils ont eu peur. Hein? Et là, après ça, ils cherchaient à travailler pour qu'ils oublient. Alors, Dieu continue son œuvre à partir du verset 26 aller jusqu'au verset 38. Ils ont encore des leçons à apprendre. Trois versets que j'ai pris dans le Nouveau Testament pour nous apprendre un principe qui est extrêmement important. C'est celui que quand Dieu commande une œuvre en nous, il va la terminer. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous, de se souvenir que Dieu... Moi, j'ai commencé plein de choses dans ma vie que je n'ai jamais fini. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, c'était ça. Parce que pour toutes sortes de raisons. Mais Dieu, quand il commence quelque chose, l'œuvre de salut qui a commencé dans vos vies, vous allez vous rendre au bout. Parce que c'est lui qui mène. Ça se dit dans Philippiens 1:6, « Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Si on est sauvé, on a reçu la grâce, dites-vous une chose, vous allez vous rendre au bout. Ça va peut-être faire mal en attendant, mais vous allez vous rendre au bout. Apocalypse, verset 22, chapitre 22, verset 13, qui nous rappelle un principe très important concernant la personne de Christ. « Je suis l'alpha et l'oméga, la première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre de l'alphabet grec, qui vient nous montrer, c'est moi, je suis le commencement et la fin. » Tout va s'accomplir en lui. Et Nombre 22, 23, celle-là, c'est un verset quand on allait dans la rue, évangéliser dans la rue à Québec, Lucie, elle se mettait ça dans le cou, des fois, on avait des grandes enceintes. Puis on avait celle-là, Nombre 32, 23, à Québec, sur le coin de Saint-Joseph. Ce verset-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, là, mais il fait réagir les pécheurs de façon très violente. Voici ce qu'il dit, le verset. Mais si vous n'agissez pas ainsi, voici, vous aurez péché contre l'Éternel, et sachez que votre péché vous trouvera. Ça, c'est dans la version Osterval. Mais dans la version seconde, ça dit, mais si vous faites ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Autrement dit, il y a un principe là-dedans qui est en train de nous dire que quand quelqu'un pêche, peu importe le type de péché, il va finir par t'atteindre dans le sens que ce qu'il te mérite va finir par sortir. Sachez que votre péché vous atteindra. Si tu es un gars qui pêche dans le sexe, ça va t'atteindre. Si tu es quelqu'un qui pêche dans la boisson, ça va t'atteindre. Si tu es quelqu'un qui pêche dans la drogue, ça va t'atteindre. Peu importe le type de péché, sachez que votre péché vous atteindra. Alors, Dieu continue le jugement divin quand ils ont ouvert leur sac et ils se rendent compte. Verset 28, il dit à ses frères, « Mon argent m'a été rendu, et en effet, le voici dans mon sac. » Hein, pour dire la réaction que ça a produit et leur cœur le manque. Quand on dit « le cœur m'a manqué », là,
ouais.
Ça te fait un effet en dedans que tu as l'impression que le cœur va t'arrêter de battre. Ils ont réalisé qu'ils pouvaient être accusés de vol. Ils ont réalisé plein de choses concernant l'argent. Leur cœur leur manqua. Ils se dirent l'un à l'autre en tremblant. Oh! Ils se sont rendus compte, c'est grave ce qui arrive là. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Voyez-vous, l'effet que la conscientisation produit sur le cœur du pécheur. Tu te rends compte que ce qui t'arrive a un lien avec le péché que tu as fait dans le passé. N'est-ce pas qu'il y a certains péchés qu'on a fait dans le passé qu'on continue à traîner avec nous? Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures. Les péchés qu'on a fait dans le passé, Dieu il nous les a pardonnés, mais on les traîne avec nous, Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ils se rendent compte. Et ensuite, on va voir que la correction de Jacob dans les versets 29 à 36. C'est intéressant de voir que Jacob, la manière dont Dieu a travaillé dans sa vie, il n'a pas compris grand-chose. Parce que sur le coup, premièrement, il est sûr qu'il ne reverra jamais Joseph et il va le revoir. Il est sûr que tout ce qui lui arrive, c'est juste du négatif. Il dit, je vais essayer de le relire là. Ah oui, quand il dit, alors là, Jacob, leur père, leur dit, « M'avait privé d'enfant, Joseph n'est plus. » Et là, il croit qu'il y en a un autre de disparu. Parce que lui, il n'est pas sûr s'ils vont y retourner encore en Égypte. Il dit, « Siméon n'est plus. » Il pense qu'il y en a deux, il n'a aucun perdu. Mais lui, il est sûr qu'il y en a deux de perdu. Alors, c'est là qu'on voit notre manière d'interpréter les choses que Dieu envoie dans nos vies sont rarement une interprétation correcte. On interprète les choses de façon tout croche. Alors, autre chose intéressante aussi, c'est dans versets 37 et 38. Là, ils se rendent compte que s'ils veulent réavoir du blé un autre jour, il va falloir qu'ils retournent avec Benjamin. Et là, ils savent que le père, il n'est pas question. Jacob, il est fermé comme une huître, il ne veut rien savoir de ça. Il a peur. Alors, ça dit dans le verset, Ruben, c'est un spécial, il a essayé d'empêcher le crime, mais le crime est arrivé pareil. Mais là, Ruben, il fait une promesse, il fait un engagement qu'on pourrait dire en québécois, niaiseux. Parce qu'il dit, Ruben parla à son père et lui dit, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te le ramène. » Confie-le-moi et je te le rendrai. Voyons donc. Ouais, c'est comme si tu disais à un père, si je te ramène pas ton Benjamin, tu tueras mes deux enfants. C'est pas brillant comme... verset 38, il répondit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et celui-ci est resté seul. Et s'il lui arrivait malheur, pour montrer comment Jacob n'a pas encore digéré toute cette histoire-là, s'il lui arrivait malheur dans le chemin où vous irez, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur au sépulcre. Alors, Jacob, il n'a pas encore vraiment compris ce qui se passe. Il va le comprendre juste à la fin de ses jours. Quand il va comprendre, oh, j'ai retrouvé Jacques, j'ai retrouvé Joseph, oh, j'ai retrouvé Siméon, il va comprendre plein de choses. Mais pour le moment, mais moi je trouve que si on lit une histoire comme ça, puis on voit juste l'histoire de Joseph et de Jacob, on manque le bateau. Parce que le Seigneur, il fait exactement la même chose dans nos vies, il nous envoie des circonstances, et les circonstances, souvent, on les interprète tout croche. Et c'est pas ça que Dieu veut. Et c'est plus tard, souvent, qu'on va réaliser. Alors, la proposition de Ruben est très certainement irréfléchie, non naturelle et pécheresse. Alors, c'était pas brillant de la part de Ruben de dire ça à son père en pensant, « Ben, regarde, donne-moi-les, Benjamin, on va retourner en Égypte, puis si jamais je le perds en chemin, là, ben, tu tueras mes deux enfants. » C'était pas fort. Alors, les applications. Je dirais, la première, soyons émerveillé devant la gestion divine des circonstances providentielles, à la fois de l'ensemble de son peuple, de tous les croyants en particulier. Alors le Seigneur se sert de ces événements-là pour accomplir son plan des 400 ans de son peuple en Égypte. Et deuxième application, louons le Seigneur d'utiliser notre conscience comme outil pour nous rappeler nos péchés. Et troisième application, comprenons notre tendance à interpréter erronément nos circonstances et implorons le Seigneur de nous apprendre à lui faire confiance dans nos épreuves et à voir sa main dans ce qui nous arrive. Que notre grand roi soit béni, loué et adoré, pour sa sage direction de tous les détails de nos vies, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.
Amen.